Alors, mesdames et messieurs, pour la dernière conférence de la journée, vous êtes à la conférence V11 qui porte sur l'archiviste dans tous ses états. Trois professionnels parlent des particularités de leur milieu. Et l'animateur de cette table ronde est François Cartier. Donc, François, qui n'a plus besoin de présentation. Et je sais qu'il ne veut pas que je le dise, mais moi aussi, je suis une fan finie de François Cartier. Alors, c'était des propos de Denis Chouinard ce matin. Alors, je l'ai trouvé tellement bonne que je voulais les reprendre. Alors, François, qui est conservateur, archives et histoire au Musée McCord, qui s'implique au sein de l'association depuis plusieurs années et présentement, il est le responsable du comité des affaires professionnelles. En plus, il répand ses connaissances donc à l'École de bibliothéconomie et sciences de l'information de l'Université de Montréal et à l'UQAM. Alors, il m'arrive parfois de me demander comment il fait. Mais il le fait très bien. Alors, je lui laisse la parole pour présenter les conférencières.
Merci, Isabelle. Et Isabelle, vous le savez probablement, travaille à l'EBSI et est aussi chargée de cours et répand elle-même ses connaissances, inflige ses connaissances aux étudiants comme moi. Mais Isabelle est surtout ma... en ce moment, en plus d'être chargée de cours à l'occasion, est surtout coordonnatrice des stages à l'EBSI et c'est ma pocheuse de stagiaires favorite. Qui me fournit en stagiaire toujours d'excellente qualité. Alors, merci Isabelle. Rebonjour, c'est encore moi. Je vous présente une deuxième table ronde aujourd'hui, parce qu'effectivement, quand le congrès s'est mis en branle, la préparation du congrès s'est mise en branle, j'ai soumis deux propositions de communication en me disant, coudonc, ils vont peut-être en prendre au moins une des deux, mais mal m'en pris car ils ont retenu les deux. Certains d'entre vous, je crois, étaient à la première table ronde ce matin qui regroupait trois professionnels là, qui œuvrent dans le domaine de ce qu'on peut appeler peut-être les institutions de mémoire. Donc, nous avions une archiviste, une bibliothécaire et une muséologue-archiviste aussi, Claudine. Et je pense que c'était bien apprécié. C'était pour montrer qu'est-ce qui distingue, mais aussi qu'est-ce qui rassemble ces trois professions dans le cadre de... du travail tous les jours dans différents milieux, archives, musées, bibliothèques. L'autre table ronde, celle à laquelle vous allez assister en ce moment, dans les prochaines minutes, c'est un peu un complément, si on veut, à cette première table ronde qu'il y a eu ce matin. Ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu de rassembler trois personnes de trois milieux différents, c'était de rassembler trois archivistes, mais qui travaillent dans trois milieux, je dirais, assez différents. Et le but ici, c'est pour montrer justement tout l'éventail des connaissances et des pratiques auxquelles peuvent faire face les archivistes une fois qu'ils sortent de l'école. Donc, c'est une table ronde qui veut mettre en valeur la diversité de l'expertise des archivistes, ce qui est aussi un peu en ligne des nouvelles orientations stratégiques que l'AAQ va se donner. Finalement, à partir de demain, lors de l'Assemblée générale annuelle, on va présenter et entériner ces nouvelles orientations. Et une de celles-là, c'est justement de mieux faire valoir la diversité des gens, des membres de l'AQ qui travaillent dans différents milieux liés à la gestion de l'information organique, etc. Donc, c'est un peu aussi en lien avec ça. Sans plus tarder, je vous présente les trois panélistes de cet après-midi. Alors, tout de suite à côté de moi, il y a Mme Cynthia Couture, qui est, je veux juste être sûr de vous donner les bons titres, donc qui est à la municipalité de Brossard, archiviste à la municipalité de Brossard, Marie-Andrée Fortier, qui est archiviste aussi, et là aussi je veux faire attention, archiviste des Ursulines de Québec, et Mme Julie Daou, qui est archiviste chez Molson Coors. Donc nous avons quelqu'un ici qui travaille dans le milieu des municipalités, qui fait surtout de la gestion documentaire, l'historique en passant, mais beaucoup de gestion documentaire. Madame Fortier, qui est en milieu religieux et qui peut-être est davantage centrée du côté des historiques, et Madame Daou, qui est dans le milieu corporatif. Alors ici, déjà, on a une bonne palette des différents milieux. Alors, sans plus tarder, je vais leur céder la parole. Chacune va vous présenter son milieu, les défis, les particularités, etc., pour à peu près une dizaine de minutes. Et par après, je vais revenir un autre petit 30 secondes pour lancer le débat et vous inviter à poser des questions à nos panélistes sur certains thèmes que je vous donnerai dans quelques instants. Alors, sans plus tarder, Cynthia, je te cède la parole.
Bien, bonjour à tous. Moi, je suis ici pour vous parler de trois sujets, soit de ma formation et de mon expérience de travail comme archiviste, des liens que je fais entre la formation théorique et la pratique, et finalement, des particularités du milieu municipal, selon moi, et du rôle que l'archiviste est appelé à y jouer. Je vous mentionne tout de suite que c'est des impressions très, très personnelles, puis j'espère que les autres congressistes vont nous faire part de leurs impressions dans leur milieu. Donc, au niveau de ma formation, j'ai complété un baccalauréat en sciences politiques, avec une majeure en sciences politiques, puis un certificat en archivistique, et j'ai fait la maîtrise en bibliothéconomie avec l'option en archivistique. J'aime bien ça, l'archivistique. J'ai terminé mes études en 1998, donc ça fait 12 ans. J'ai eu la chance depuis de travailler dans différents milieux, dans les entreprises privées, mais surtout publiques, au traitement d'archives historiques, mais aussi et surtout aux archives courantes et intermédiaires. Mes premières expériences de travail ont été du côté des archives historiques. J'ai fait le traitement de fonds d'archives à l'Université de Montréal et aux archives départementales du Doubs à Besançon. J'ai également fait le traitement du fonds d'archives d'un homme d'affaires canadien. Et j'ai travaillé comme documentaliste à la Fondation Daniel Langlois, où j'ai été appelée à faire le traitement du fond d'une exposition. C'est à l'Université de Montréal, avec Madeleine Roy, que j'ai vu la lumière, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire du travail au niveau des archives courantes et intermédiaires par l'élaboration de règles de conservation. Ensuite de ça, à titre de conseillère qualité pour différentes unités d'Hydro-Québec, j'ai été appelée à gérer les archives courantes des employés en conformité avec des normes internationales, dont ISO 9001 et ISO 14001. Et j'ai eu la chance de participer à l'implantation d'un système de gestion de documents numériques avec LiveLink. Et finalement, à titre d'archiviste municipal depuis 5 ans, j'ai réalisé différentes activités, soit l'élaboration d'un plan de classification, j'ai participé à la refonte d'un calendrier de conservation. J'ai le plaisir d'être dans le développement d'un système de gestion de documents numériques qu'on a acquis. Et j'ai fait des projets de numérisation. Et finalement, j'ai aussi participé à un projet d'exposition de photographie et la préparation d'un livre souvenir dans le cadre du 50e anniversaire de la ville de Brossard. Donc, au niveau des liens entre la formation théorique et la pratique, bien, dans mon cas, le fait d'avoir complété et le certificat et la maîtrise m'avait permis d'acquérir de bonnes connaissances qui ne m'ont pas fait défaut jusqu'à maintenant dans les différents emplois que j'ai occupés. Et je pense que le rôle de l'université, c'est beaucoup de nous apprendre des concepts et des principes. Puis ensuite de ça, c'est quand on arrive dans les milieux, c'est à nous d'adapter ces concepts et ces principes-là en fonction du milieu où est-ce qu'on est, de sa réalité, de sa culture et des moyens dont on dispose. Et je pense que l'université nous apprend aussi à apprendre dans ce sens qu'on apprend qu'on ne sait pas tout puis que tout évolue vite. Pardon, je suis très calme. Et je fais un lien ici avec la formation continue. À mon avis, l'apprentissage ne se termine pas en sortant de l'université. Le domaine évolue très rapidement. Et à titre d'exemple, on parlait à peine de métadonnées puis de systèmes de GED en 1998 quand je suis sortie de l'école. Puis maintenant, c'est devenu un domaine majeur. Donc, pour moi, la formation continue est bien, bien importante. Et au niveau des particularités de la pratique archivistique dans le milieu municipal, encore une fois, c'est mes propres réflexions sur ma petite expérience jusqu'à maintenant à Montréal et à Brossard. Donc, je vais inviter mes autres collègues des villes à nous faire part de leur perception à eux. Donc, la première particularité qui m'a frappée à la Ville de Montréal, c'est la diversité et le nombre des activités réalisées. En effet, dans une ville, on a comme plein de missions complètement différentes. C'est ceux qui ont très peu de choses à voir les unes avec les autres. Par exemple, organiser une exposition d'art n'a pas grand-chose à voir avec entretenir le réseau d'égouts ou les règles à suivre pour émettre un permis de construction. Et cette diversité-là a pour résultat que pour l'archiviste, ça prend vraiment un certain temps avant de bien maîtriser le détail de chacune des activités, ce qui est essentiel à notre travail. Ensuite de ça, une ville, c'est un organisme public qui est créé par le gouvernement du Québec. Elle a donc une autonomie relativement limitée et on a énormément de lois à respecter, que ce soit pour l'octroi de contrats, pour le zonage, pour l'émission des permis. Ensuite de ça, dans une ville, on vit des élections à tous les 4 ans. Donc, l'équipe politique peut changer à tous les 4 ans. On doit être conscient de ça dans nos projets. S'arranger pour être chum avec tout le monde. Et finalement, ben ça, c'est particulier aux municipalités qui ont fusionné et défusionné. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vécu ça. En tout cas, nous, on a eu vraiment des bouleversements majeurs, tant au niveau du personnel que des activités, et un beau bordel aux archives. Ce que ça a donné, c'est que pour plusieurs activités, c'est comme si on repartait la ville de zéro. Par contre, ça fait une job très intéressante pour un archiviste. Et au niveau du rôle de l'archiviste dans une municipalité, je pense que ce qui ressort le plus, c'est la polyvalence de ses fonctions. En effet, à moins d'être dans une grande ville où les rôles sont très bien définis, l'archiviste va être appelé à travailler tant dans les archives courantes que dans les archives historiques. Par exemple, à élaborer un plan de classification et un calendrier de conservation, mais aussi à faire du traitement d'archives historiques, de la mise en valeur du patrimoine de la ville. Donc, on doit être appelé à remplir toutes ces fonctions, même si des fois on dit que le côté historique, on n'aime pas ça, mais c'est un travail stimulant. Et concernant les besoins identifiés dans les municipalités, au-delà de la polyvalence des activités, il y a un besoin qui est, à mon avis, majeur actuellement et pour les années à venir, et c'est tout ce qui touche la gestion des documents numériques. Les documents sont créés de façon très, très décentralisée, souvent sans organisation et normalisation. Ils sont souvent conservés uniquement dans leur version numérique, et comme l'espace informatique est virtuel, les gens n'ont pas le même sentiment d'urgence à faire du ménage que quand les classeurs débordaient. Donc, il en résulte un patrimoine documentaire qui est mal organisé, et qui est constitué de beaucoup de documents inutiles, ce qui fait que les gens perdent énormément de temps à chercher les informations dont ils ont besoin. Donc, à mon avis, il est essentiel que l'archiviste des municipalités élabore et applique des méthodes et des procédures de gestion du patrimoine documentaire qui tiennent compte du volet numérique. Ce qui est intéressant, c'est que comme les besoins sont criants, on a beaucoup moins de ventes à faire. Les gens viennent nous voir d'eux-mêmes pour qu'on les aide. Comment faire? Il n'y a pas une réponse. Il y a plusieurs options selon la réalité des villes. Ce qu'on a fait à Brossard, au départ, on n'avait pas de système de gestion de documents numériques. On a donc commencé par organiser l'information, soit élaborer un plan de classification unique pour toute la ville qui s'applique aux documents papier, mais surtout surtout aux documents numériques et qui tient compte des exigences des documents numériques. On a élaboré des règles d'identification des fichiers puis des répertoires numériques. On est à développer un système de gestion de documents numériques. Et on a élaboré une procédure de traitement des courriels. Et puis finalement, on a entamé des projets de numérisation des documents avec destruction des documents originaux. C'est juste des exemples pour une petite ville comme Brossard. Il y en a plein d'autres. L'important, c'est de bien identifier les besoins et d'y répondre. Et finalement, en terminant, je vous dirais que le fait d'intervenir sur les documents numériques offre plusieurs avantages pour l'archiviste. Notamment, on est en mesure d'intervenir en amont sur les documents, soit au moment de leur création ou même avant, par l'utilisation de modèles, beaucoup. Et ce fait-là fait qu'on intervient directement avec les employés dans les unités. On est donc en contact direct avec eux, puis ça aide beaucoup à la crédibilité accordée à l'archiviste comme employé essentiel dans une organisation. Et donc, voici ma compréhension des particularités pour une municipalité.
Moi, je suis à la bonne franquette avec mes petites fiches. Fait que là, j'égrène le temps. Alors, lorsqu'on suit la formation certificat en archivistique, on nous enseigne, entre autres, la théorie. C'est tout un autre monde lorsqu'on arrive dans la pratique. J'aimerais juste clarifier une chose. Cet exposé est rien de scientifique. C'est vraiment mon expérience personnelle dans mon milieu scolaire et à mon travail. Donc, libre à vous de le juger, de l'argumenter et de l'augmenter s'il le faut. Donc, je vais commencer avec mes études. Donc, j'ai fait un baccalauréat à l'Université de Sherbrooke en histoire, que j'ai terminé en 2000, et j'ai fait un certificat en archivistique à l'Université Laval, que j'ai terminé en 2001. Par la suite, j'ai fait un stage au Bureau des archives, collègues, ils sont ici. c'est là que j'ai traité mon premier fonds d'archives. Donc, c'est là que ma vie d'archiviste a réellement débuté. En ce moment, je poursuis mes études de maîtrise en archivistique dans le cadre d'une formation continue. Mes expériences de travail. Donc, comme j'ai dit, après mon stage, j'ai été engagée un an par l'Université de Sherbrooke. C'est là que je me suis familiarisée avec la gestion documentaire. J'ai beaucoup appris au contact des archivistes seniors qui m'ont montré les rouages du métier et les différences entre la théorie et la pratique. La différence se manifeste davantage en gestion documentaire parce qu'il y a le facteur humain qui entre en interaction et devient un perturbateur de la théorie en étant rébarbatif au changement. Par la suite, j'ai eu plusieurs contrats comme technicienne en archivistique au séminaire de Sherbrooke ainsi qu'à l'archevêché. J'ai travaillé également à la bibliothèque municipale comme commis et j'ai obtenu un contrat d'une année au séminaire de Trois-Rivières. L'expérience à Trois-Rivières a été des plus révélatrices. Le mentorat qui était offert là par l'archiviste m'a permis de faire ma place dans le monde de l'archivistique en publiant pour la première fois bien humblement dans la chronique, mais quand même, et en étant en contact avec la clientèle et en m'informant sur les différentes associations existantes en archivistique et finalement en me joignant pour la première fois à l'Association des archivistes du Québec en tant que membre active. Par la suite, j'ai également pu mettre en application mes connaissances en informatique en me familiarisant, entre autres, avec la base de données RDAQ. Toutes ces expériences, ces connaissances, ces contacts, plus la volonté qui me caractérise, m'ont permis d'obtenir le poste de directrice générale du Centre régional d'archives de l'Outaouais en 2003. La question se posait ici, est-ce que j'étais vraiment préparée à cet univers? La débrouillardise, la volonté de réussir, le partenariat, le grand investissement de son temps sont les ingrédients incontournables permettant de passer au travers cette fabuleuse expérience tout de même qu'est la prise en charge d'un centre d'archives agréé. Est-ce que la formation que nous obtenons répond aux besoins d'un gestionnaire d'un centre d'archives? Autre question. Donc, petit exemple, en 5 ans de directrice générale, j'ai dû créer un système de comptabilité, j'ai dû gérer du personnel, travailler avec un conseil d'administration, élaborer des projets en être la gestionnaire, rechercher du financement, et ce, en faisant le travail d'acquisition, de traitement, de diffusion et de préservation des archives privées de l'Outaouais. N'oubliez pas, j'avais un bac en histoire. Hein? Donc, le partenariat extraordinaire que j'ai vécu en Outaouais, poussé aux limites du mentorat, m'ont permis d'accomplir des exploits dont je ne me sentais même pas capable. La formation universitaire permet, entre autres, de développer nos capacités à analyser, à réfléchir, à critiquer, à justifier, à argumenter, à garder l'esprit ouvert. Mais bien qu'elle permette de développer de nouvelles pratiques et théories, elle ne nous forme pas à devenir des gestionnaires. Ma perception de la formation. Bon, comme j'ai dit précédemment, j'ai fait mes études à l'Université Laval, donc je vais me concentrer sur cette université, sachant que mes collègues vont partager sur les autres institutions. Donc, j'ai fait le certificat et je suis en train de poursuivre ma maîtrise. Et il y a, entre autres, un cours qui est offert, un cours d'introduction en management, qui est tout à fait merveilleux. Dieu merci, un petit peu tard pour moi, mais pour les autres, c'est formidable. Par contre, je trouve que ce n'est pas suffisant. Il faudrait inclure des cours d'introduction en comptabilité, en marketing, en entrepreneuriat et en informatique surtout. Donc, tous ces cours-là peuvent servir, oui, à gérer un centre d'archives, mais également à élaborer un calendrier de conservation, parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les archivistes qui vont devenir gestionnaires, mais presque tous les archivistes vont au moins être confrontés à un calendrier de conservation. Et combien d'archivistes j'ai croisé qui ne connaissaient pas une charte comptable, un grand livre ou un plan de développement? Donc, c'est assez primordial. La réalité d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis archiviste au monastère des Ursulines de Québec. Les enjeux sont tout à fait différents d'un centre d'archives agréé ou d'une université. Surtout en ces temps difficiles où les communautés religieuses sont en grande décroissance. Il y a 3 enjeux pour les communautés religieuses. Le premier est leur unicité et leur isolement. Chaque communauté a sa propre mission. Elles sont autonomes et travaillent très fort et très dur à réaliser leur mission, qui, doit-on l'avouer, a eu des répercussions plus que positives dans le développement du Québec. Avec la décroissance que l'on constate à l'heure actuelle, il n'est plus l'heure à l'isolement, mais plutôt au partenariat. Qu'ils soient entre les communautés ou avec des organismes laïques. Enfin, il faut miser sur ces partenariats parce que c'est important de conserver le patrimoine des communautés religieuses qui sont quand même assez diversifiées. Le second enjeu, sauvegarder les documents récents. Les religieuses et les religieux sont peu sensibilisés au fait que les documents récents ont une valeur archivistique. Donc, c'est de notre travail de les sensibiliser. Le troisième enjeu, l'accès aux documents. De plus en plus accessibles, les communautés religieuses sont sensibles au désir profond des citoyens du monde de connaître l'histoire et leur histoire. Il est primordial que l'archiviste en poste connaisse la législation canadienne, provinciale, locale et canonique, puisque c'est avant tout pour répondre aux besoins de la communauté religieuse que nous sommes engagés. On est un petit nombre d'archivistes laïcs qui travaillent dans une communauté religieuse. Bien évidemment, les communautés religieuses nomment une obédience pour ceux qui ne connaissent pas une obédience, en fait, c'est un travail qu'ils donnent à une religieuse pour devenir archiviste, ce qui est tout à fait légitime parce qu'elles ont toujours fonctionné comme ça, que ce soit féminine ou masculine comme communauté. Mais la mission de l'archiviste au sein d'une communauté est de recevoir, de conserver, de mettre en valeur les archives institutionnelles pour les fins propres de l'institution et pour tous les chercheurs intéressés à cette institution, dans le but de préserver l'œuvre de celle-ci et sa mémoire à travers les documents qu'elle a créés dans l'exercice de ses fonctions. L'archiviste doit faire un travail de sensibilisation, comme j'ai dit tantôt, pour les convaincre, les créateurs, donc les religieux, à faire don de leurs documents. Il faut préserver les documents bien au-delà du destin de la communauté. Comme j'ai dit, ils sont en décroissance. Donc, nous, il faut prévoir de conserver ces documents-là, même s'ils n'existent plus. Et ce, afin de perpétuer leur implication, leurs croyances et leurs enseignements. Pour ce faire, laïcs et religieux doivent travailler ensemble dans le but d'élaborer des scénarios possibles de préservation de leur héritage commun. Que les archivistes soient invités à participer à la réflexion de l'avenir des communautés religieuses. Et ça, c'est un tabou qui s'ouvre tranquillement, que les laïcs puissent un jour s'impliquer plus profondément dans les choix des communautés religieuses, et ainsi pour préserver leur patrimoine archivistique et muséologique. Donc, un exemple pourrait être de créer un comité de religieux et de spécialistes laïcs, entre autres un archiviste, qui pourrait, qui serait créé dans la communauté religieuse afin de réfléchir et d'agir sur le patrimoine archivistique religieux pour le bien et dans le respect, surtout, de la communauté religieuse. L'informatisation, de moins en moins évitable, la gestion des documents doit désormais être informatisée par l'intermédiaire de bases de données. La numérisation et la gestion des documents électroniques sont également des documents que l'on retrouve de plus en plus dans les communautés. Une bonne connaissance en informatique et une mise à jour permet de demeurer polyvalent dans un environnement comme une communauté religieuse. En conclusion, plusieurs défis s'offrent à l'archivistique qui œuvre au sein d'une communauté religieuse, et il reste peu de temps pour les réaliser. Malgré tout, nous ne pouvons aller au-devant de la structure mise en place, ni attendre que l'on veuille bien nous offrir l'opportunité de joindre nos forces. Il faut travailler en collaboration afin de permettre aux spécialistes de pointer les opportunités à la communauté religieuse. Il faut entamer ensemble un processus de réflexion afin de trouver la solution qui sera satisfaisante pour les communautés religieuses et leur fabuleux patrimoine. Merci.
Donc, bonjour. De mon côté, j'aimerais vous présenter l'emploi que j'ai le privilège d'occuper depuis maintenant 6 ans en tant que technicienne à la gestion documentaire chez Molson Coors Canada. Je vais aussi vous parler des particularités du travail d'archiviste au sein d'une entreprise privée. Mais tout d'abord, j'aimerais un petit peu vous expliquer mon cheminement professionnel. Moi, étant donné mon très grand intérêt pour l'histoire, j'ai complété un baccalauréat en histoire avec une mineure en gestion des documents et des archives à l'UQAM. Au cours de cette formation-là, j'ai fait mon stage au sein de l'entreprise André Lapierre Gestion Documentaire Inc. À ce moment-là, cette entreprise-là avait le mandat d'implanter un programme de gestion documentaire chez Molson Inc., qui est aujourd'hui Molson Coors Canada depuis la fusion avec Coors en 2005. J'ai donc œuvré à inventorier, trier puis émettre des recommandations concernant les archives de la compagnie O'Keeffe, qui est aujourd'hui fusionnée avec Molson depuis 1989. L'entreprise semble avoir apprécié mon travail. J'ai été engagée dès l'obtention de mon diplôme. Au début, par contre, je faisais juste 3 jours par semaine chez Molson, puis je complétais les 2 autres jours à d'autres mandats de la compagnie André Lapierre Gestion Documentaire Inc. Donc, j'ai aidé à mettre à jour le calendrier de conservation des valeurs mobilières des jardins à Montréal. J'ai aussi fait du déclassement annuel à quelques reprises à la Cour municipale de Vaudreuil-Dorion. En 2006, le contrat entre André Lapierre Gestion Documentaire Inc. et Molson est venu à échéance. Donc, à ce moment-là, Molson a décidé d'engager moi puis ma collègue Marie-Pierre Aubé en tant que respectivement technicienne et superviseur à la gestion documentaire pour Molson Coors, mais au Canada. Donc, depuis 2006, moi, je travaille à temps plein pour Molson Coors Canada. Mon mandat est de conseiller, aider, puis former le personnel à l'application du programme de gestion documentaire. Je m'occupe aussi de la destruction sécuritaire des documents. J'assure également la conservation, puis la diffusion des archives historiques de l'entreprise. Là, je vais expliquer un petit peu ma formation là, versus le marché du travail. Ma formation universitaire a été vraiment très utile dans plusieurs aspects des emplois que j'ai occupés. La théorie est bien expliquée dans les cours offerts. Puis les professeurs, moi, selon moi, sont des professionnels vraiment compétents et expérimentés. La théorie, ça m'a vraiment permis de comprendre les concepts clés de la gestion documentaire, calendrier de conservation, plan de classification, cycle de vie des documents, etc. Moi, avant de faire mes études là-dedans, je ne connaissais vraiment pas grand-chose là, à la gestion de documents et des archives. Donc, je pense que les cours sont vraiment bien bâtis là, pour nous initier à la discipline. Puis, mes études en histoire, là, quant à elles, m'ont vraiment bien permis de savoir comment rechercher de l'information historique, où la rechercher, puis comment utiliser les différents documents d'archives. Par contre, selon moi, il pourrait quand même avoir certaines petites améliorations au programme de gestion des documents et des archives. Je pense qu'il pourrait avoir un petit peu plus d'ateliers pratiques là, pour qu'on soit plus... ce soit plus facile pour les archivistes en début de carrière là, de catégoriser des documents, d'appliquer des lettres de conservation, connaître les différents types de documents. Je pense aussi que ce serait intéressant d'avoir des cours sur les outils de Microsoft, Excel, Word, PowerPoint, parce qu'en tant qu'archiviste, on a beaucoup de guides usagers à élaborer, des présentations, des formulaires. Je pense que ça nous ferait des documents un peu plus beaux si on était prêt à... si on utilisait ces outils-là comme il faut. Puis finalement, en tant qu'archiviste, je pense que ce serait très intéressant d'avoir des cours de gestion de projet et d'administration parce qu'on participe souvent à des projets, même on en mène. Donc, je pense que ça nous aiderait beaucoup là, d'avoir des cours sur ces sujets-là. Maintenant, je vais aborder un petit peu la particularité de la gestion des documents et des archives au niveau de l'entreprise privée. Il y a vraiment beaucoup de défis là, à ce niveau-là, mais ici, je vous parle vraiment de mon expérience personnelle. Là, ça peut différer d'une entreprise à une autre. Le but premier de toute entreprise privée, bien, c'est faire de l'argent. Alors, la gestion des documents et des archives, bien, c'est souvent vu comme une activité qui est coûteuse en temps, en main-d'œuvre, en matériel. Les entreprises sont conscientes là, qu'il faut vraiment gérer notre information convenablement, puis l'inclure dans leur politique, mais il faut tellement travailler fort à convaincre les employés de s'y attarder au moins une fois par année. Les employés sont débordés. Ils ont beaucoup de travail, c'est pas dans leur priorité. Puis, il faut aussi convaincre les entreprises d'investir dans des outils de gestion documentaire, comme des logiciels ou de l'équipement. C'est souvent vu comme une dépense au lieu d'être vu comme rentable. Par exemple, en ce moment, nous autres, chez Molson Coors, on essaie d'acquérir un logiciel en gestion intégrée des documents pour pouvoir mieux contrôler nos documents numériques. On a un logiciel pour les documents sur support tangible, comme on dit. Donc, ça nous aiderait beaucoup à contrôler au niveau de l'électronique. D'ailleurs, l'informatique, c'est maintenant vraiment omniprésent dans les entreprises. La gestion des documents électroniques, c'est un aspect qui est relativement nouveau. Toutes les façons de faire sont à bâtir pour les archivistes. Puis il faut vraiment qu'on donne la formation aux employés pour qu'ils se rendent compte de tout le volume d'informations qu'ils créent puis qu'ils consultent à chaque jour. Quand nos classeurs sont pleins, nos entrepôts sont pleins, on le réalise. Mais quand on se situe sur un ordinateur, on dit ben là, non, ça prend pas toute la place. Donc il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Maintenant, d'ailleurs, les liens entre les départements de gestion documentaire puis le département d'informatique, là, c'est devenu indispensable. D'ailleurs, nous autres, chez Molson Coors, on travaille de pair avec eux pour résoudre tous les problèmes d'organisation de l'information, mais surtout du volume. Le volume devient très important rapidement. Les entreprises privées, ils mettent rarement l'emphase sur la gestion de leurs documents puis la conservation de leurs archives historiques. D'ailleurs, pour donner un exemple, nous autres, chez Molson Coors, on est juste deux gestionnaires de documents et des archives, pour le Canada au complet. Ça représente 3000 employés qui sont répartis dans 6 brasseries puis 5 bureaux de vente. On fait comme on peut, hein? On fait notre possible, comme on dit. D'ailleurs, le défi de consolider les façons de faire pour une entreprise qui n'est pas canadienne ou internationale, là, c'est vraiment pas facile. On doit s'adapter aux gens qui viennent de différentes provinces, qui parlent une langue différente, qui ont une façon différente de travailler, une culture de travail qui est différente. Donc, il faut vraiment qu'on s'adapte. Puis aussi la distance, ça reste toujours un problème, la distance. Ça nous amène à voyager, ça, c'est un petit peu le fun quand même, d'aller à Toronto, Edmonton et Vancouver et tout ça. Mais par contre, ça nous amène beaucoup à utiliser les moyens technologiques, là, que ce soit le courriel, le téléphone, courrier interne ou même le Webex à l'occasion. De plus, étant donné le peu de ressources en gestion documentaire, bien, la plupart des gestionnaires de documents en entreprise privée, mais il faut qu'ils portent plein de chapeaux. Techniciens, superviseurs, directeurs de la gestion documentaire, archivistes, historiens, documentalistes, gestionnaires de projets et bien d'autres. D'ailleurs, le rôle de gestionnaire de documents là, chez Molson Coors, plus précisément, c'est premièrement, nous autres, notre objectif principal, c'est d'appliquer le programme de gestion documentaire au Canada. Donc, bien, nous autres, pour ce faire, là, on a mis beaucoup d'outils en place pour vraiment simplifier la tâche au maximum pour les employés. Nous autres, ce qu'on voulait, c'est être un centre d'aide, un centre de support. On ne voulait pas être perçus comme ceux qui viennent taper ses doigts parce qu'ils ne le font pas comme il faut. Donc, nous, on présente des formations en groupe régulièrement là, pour qu'ils connaissent les grandes lignes du programme, le carnet de conservation, plan de classification, la saine gestion des documents électroniques, destruction sécuritaire. Puis ensuite, on a aussi développé un site intranet sur lequel on retrouve une courte formation en ligne qui est vraiment plus au niveau individuel de comment inventorier, trier, détruire les documents. Puis, on a aussi mis tous les guides d'usagers, là, que ce soit pour le plan de classification, carnet de conservation, destruction sécuritaire, puis le logiciel LiveLink Records Server, que nous autres, on utilise là, pour répertorier nos documents sur support tangible, comme on dit. Notre rôle également chez Molson Coors, c'est de gérer tous les documents qui sont en entrepôt externe. On a à peu près 10 000 boîtes d'archives standards en entrepôt externe. Donc, on doit contrôler, bien sûr, les entrées puis les sorties des dossiers puis des boîtes. Puis, on doit aussi coordonner la destruction annuelle des documents à chaque année. Donc, le délai de conservation y est échu. Finalement, notre mandat inclut aussi d'assurer l'organisation puis la conservation des archives historiques quand on a le temps. Molson, c'est une vieille entreprise. Elle a aujourd'hui 223 ans. Donc, vous imaginez la quantité de documents historiques puis d'artefacts. Là, c'est assez impressionnant. Il y a une bonne partie qui a été cédée, par contre, aux Archives nationales. Mais on en a encore une certaine partie qui sont réparties dans les différentes brasseries puis qui sont en entreposage externe. Mais étant donné que Molson Coors, bien, c'est une compagnie dont l'objectif, c'est de vendre, de produire et de vendre de la bière, bien, il y a beaucoup de lacunes au niveau de la conservation de nos archives historiques puis de nos artefacts. On travaille du mieux qu'on peut là, pour organiser puis préserver les archives historiques dans les meilleures conditions possibles, mais avec très peu de ressources. Notre objectif, c'est ça, c'est d'améliorer la condition de préservation des archives, mais surtout d'en augmenter la diffusion. Ça ne sert à rien d'avoir des archives, des artefacts super intéressants si on ne les diffuse pas. D'ailleurs, Molson Coors reçoit des demandes d'informations historiques et d'images d'archives vraiment régulièrement. Les connaissances que j'ai acquises à propos de l'histoire de Molson, j'ai lu à peu près tous les livres qui se sont écrits sur l'histoire de la compagnie puis de la famille, puis aussi sur les archives de la compagnie, ça me permet de répondre aux questions historiques autant des employés, des agences de publicité, des documentaristes que des consommateurs, parce que les consommateurs aussi ont beaucoup de questions, des fois très bizarres, je dois dire. Je vais terminer un petit peu avec les besoins archivistiques là, au sein de l'entreprise privée. Les entreprises privées ont vraiment tout avantage là, à utiliser les services de professionnels en gestion des documents et des archives. Non seulement les entreprises s'assurent de respecter les lois qui sont en vigueur par rapport à la conservation des documents, mais elles évitent aussi d'accumuler un tas de boîtes, un tas de papiers un peu partout et sur les répertoires réseau aussi, puis souvent ils les conservent inutilement. De plus, les employés ont vraiment des ressources pour les aider à savoir quoi faire avec toute l'information qu'ils consultent et qu'ils créent à tous les jours. Il y a un peu deux sortes d'employés, ceux qui veulent tout garder, ceux qui veulent tout jeter. Nous, on est là pour donner des balises, équilibrer le tout. Aussi, au niveau des documents électroniques, là, les besoins dans les entreprises sont vraiment criants. Là, les réseaux sont totalement embourbés. Les gens mettent ça n'importe où, n'importe quel réseau. Donc, je pense que l'archivistique, la gestion documentaire et archivistique apporte vraiment des solutions à ce niveau-là. Grâce à ça, on peut vraiment organiser l'information puis la trier convenablement. Donc, finalement, la gestion des documents et des archives, ça soutient le bon fonctionnement des opérations des entreprises privées puis ça leur évite à bien des problèmes. Merci.
Merci, Julie. Merci, mesdames, pour vos témoignages. En fait, c'est ce que c'est un peu, c'est des témoignages de ce que vous vivez dans vos milieux et comment vous vous composez avec tout ça. Moi, si j'avais 10 000 boîtes d'archives à gérer, je me jetterais rapidement en bas d'un pont, probablement. Alors, ben, comme vous avez pu le constater, et nombre de personnes parmi vous opinaient du bonnet, des fois quand mes collègues ici soulevaient certains points par rapport à leur expérience, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été soulevées par rapport à... aux défis qu'on retrouve dans ces différents milieux-là. On a parlé, là je fais ça rapidement, de ressources limitées, de besoin de s'impliquer aussi au niveau de, pas juste gérer les archives, mais gérer des projets, gestion de projet, l'administration. On a parlé des études, du lien entre les études et le milieu pratique de travail et comment ça s'arrime ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut compléter, comme Cynthia l'a dit aussi, comment on peut compléter ça avec de la formation continue par après. C'est intéressant aussi, mes collègues ici ont mentionné à quelques reprises les liens que l'archiviste, gestionnaire de documents, dans son milieu a avec ses collègues de travail, qu'ils soient archivistes ou pas. Donc ça, je pense que c'est une dimension intéressante qu'on a soulevée aussi. Voilà plusieurs points qui ont été soulevés. Et maintenant, avec le temps qui nous reste, j'inviterai les gens ici dans l'assistance soit à renchérir sur des choses qui ont été dites ou à poser des questions en lien avec ces différentes thématiques-là. Nous, en se parlant un peu, en préparant cette table ronde-là, on a, à part les différents thèmes que je viens de mentionner, on a soulevé aussi quelques questions par rapport, entre autres, aux qualités ou aux compétences requises pour un archiviste aujourd'hui dans le milieu de travail. Et ça, justement, on vient d'en faire mention. Qu'est-ce que ça devrait être? Vous en avez eu un aperçu ici. D'autres points aussi, je passe rapidement, mais aussi comment votre fonction, votre rôle est-il vu par vos collègues de travail, justement, dans votre milieu de travail? Comment les gens vous voient? Est-ce que, justement, vous êtes en bas de la chaîne alimentaire et on vous lance les documents quand ils deviennent trop nombreux? Bref, les relations qu'on a, nous aussi, dans l'organisme où on est, que ce soit une municipalité, un centre d'archives agréé ou une communauté religieuse ou une entreprise dont le but est naturellement de satisfaire ses actionnaires. Alors aussi, comment est-ce qu'on est perçu, comment est-ce qu'on est traité, quelles sont nos relations avec nos collègues de travail. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro pour poser des questions, je ne crois pas. Peut-être juste vous inviter à vous lever et à parler un petit peu fort pour que ça puisse être capté par les micros high-tech de mon ami Nicolas ici. Alors, allez-y si vous voulez intervenir.
Alors, c'est Mme Daou de Molson Coors à qui je voudrais m'adresser principalement parce que vous êtes revenue souvent, pour que les gens puissent entendre, vous êtes revenue souvent avec la notion de gestionnaire de documents et d'archives. Alors, moi, je pense que dans un milieu, que ce soit un organisme gouvernemental, un organisme des différents types de gouvernements, que ce soit municipal, provincial et autres, dans les ministères, moi, je suis personnellement dans le milieu de l'éducation. Je pense qu'une bonne façon d'aborder les gestionnaires, c'est par la gestion de documents, gestion de l'information. Il y a des besoins énormes qui sont là. Et selon moi, il est très important de s'identifier comme étant gestionnaire de documents, ce qui, dans mon cas, représente le 90 % de mon travail, de mon expertise. Et le niveau archive est plutôt de 10 %.
Je suis tout à fait d'accord. Dans mon emploi à moi, j'irais peut-être plus 30 % au niveau des archives historiques parce que ma boss, ça ne l'intéresse pas du tout, donc elle me refile tout ce qui est archives historiques. Donc, j'ai un petit peu plus au niveau de l'archive historique, mais je dirais que 70 % de mon travail, c'est bien sûr de la gestion de documents. Mais l'aspect glamour de mon travail, c'est les archives historiques. C'est ce qui me permet d'être plus connue au sein de l'entreprise, c'est que je suis l'archiviste, je suis celle qui connaît tout sur l'histoire et ça passionne les gens. Mais par contre, le plus gros de mon travail, c'est sûr, c'est la gestion de documents, c'est la formation personnelle, c'est d'appliquer le programme de gestion documentaire, puis de m'occuper aussi des archives semi-actives, oui, tout à fait.
Et je pense que ça représente une grande majorité des membres ici. Les fonctions qu'on occupe, c'est d'abord gestion de documents pour en arriver à pouvoir avoir des archives saines.
Exactement, tout à fait. Puis c'est là qu'ils sont ciblés, en fait, nos archives historiques. C'est en suivant le programme de gestion documentaire, ça nous sélectionne nos archives historiques automatiquement, puisque c'est ce qui va être conservation permanente.
Alors, vous serez d'accord avec moi que pour accroître la visibilité, pour accroître la reconnaissance, c'est important de s'identifier comme étant gestionnaire de documents.
Mon titre, c'est technicienne à la gestion documentaire. Ce n'est absolument pas archiviste, ni technicienne aux archives. Je suis technicienne à la gestion documentaire pour pouvoir me positionner au niveau de la gestion de documents en premier lieu, tout à fait.
Moi, ce que je peux juste faire comme un commentaire, c'est que dans le milieu corporatif, je trouve qu'on souffre énormément d'isolement parce que beaucoup de choses concernent les archives publiques, les lois, le soutien, tout ça. Quand on arrive dans un milieu privé, toutes ces choses-là, on est comme on est seul. Moi, je suis seule, presque seule, tous les deux. Puis on ne sait pas où aller cogner ou pas, puis avoir des similitudes dans les milieux, c'est vraiment particulier, puis je trouve ça fun d'entendre.
Mais c'est vrai, puis en plus, nous autres, ça fait 2-3 fois qu'ils nous changent de département lié, si on veut, parce qu'ils ne savent pas avec quel département nous mettre. Là, je suis avec les affaires juridiques. Puis je dirais que c'est la meilleure place pour nous, parce qu'on a une visibilité qui est beaucoup plus grande. Avant, on était avec l'informatique. On avait une moins grande visibilité, donc là, c'est plus facile, en ayant le support des affaires juridiques, de bien faire notre travail et d'être plus connu à travers l'organisation.
Si je peux prendre la parole encore à ce niveau-là, je fais partie d'un comité qui est à l'intérieur de l'Association de l'accès et de la protection de l'information, qui est l'API. Et lors du dernier congrès, la gestion de l'information a pris une envergure étonnante. Là. Les gens s'ouvrent à ça. L'importance, le lien est très vite fait là, du côté juridique avec la gestion de l'information, organiser nos documents de sorte que l'on puisse les donner lors de demandes d'accès, là, que ce soit géré de façon correcte et légale.
Quelqu'un d'autre aurait des sentiments profonds à partager? Vous défoulez. Oui, allez-y. Vous levez, s'il vous plaît.
Moi, je voulais savoir, je vous entendais parler des choses, mais particulièrement dans la sortie, puis j'ai fait plein de fois, là, j'ai dû donner des instruments comptables. Alors, là,
que vous suggérez?
Merci de la question. Je viens de sortir de la conférence qui était dans Victoria A avec les directeurs de... Bon, vous aussi, OK, c'est ça. Et puis, je suis tout à fait d'accord, et ça fait longtemps que j'y pense, d'un bac en archivistique, mais multi, en fait, qui comprendrait tous ces cours-là d'introduction. C'est un minimum. Juste pour la création d'un calendrier de conservation, c'est vraiment un minimum, là, parce que faut les connaître, les documents, faut les connaître, le travail des gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, puis qu'est-ce qu'une entreprise doit créer pour pouvoir fonctionner. Une lettre patente, là, faut le savoir, c'est quoi, là, c'est un minimum. Donc, vraiment, les cours d'introduction, là, c'est en tout, là, vraiment, faut tout couvrir. On va pouvoir au moins savoir qu'est-ce que c'est que le 3000 dans un calendrier de conservation, c'est quoi les ressources humaines, c'est un minimum. Fait que moi, je pense à un bac qui comprendrait tous ces cours-là, et pas des cours optionnels, s'il vous plaît, des cours obligatoires. Puis non, je pense qu'on sera en machine avec ça. Bien évidemment, compléter avec la maîtrise, parce que je pense que la maîtrise, c'est un must aussi pour pouvoir ouvrir son esprit et appliquer et réfléchir sur de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes. Mais c'est vers ça, moi, je prône ça grandement.
Quel recours on a, parce que je m'excuse, mais je n'ai pas senti l'ouverture au milieu. Dans cette conférence-là, je n'ai pas senti ça. Donc, super, les gens, ils nous faisaient part de leur expérience professionnelle actuelle. Fait, nous, comme membres, qu'est-ce qu'on a comme membres?
Ben, en fait, je crois que, de ce que j'ai vu, Mme Cardin de l'Université Laval était quand même assez ouverte à l'esprit d'un bac. Les autres, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus mitigés sur la question, mais je pense que nous, bon, comme moi, je suis encore en maîtrise, je tape sur le clou régulièrement. Les stagiaires que je reçois, parce que j'en reçois au moins 3 ou 4 par année, je tape sur le clou aussi. Qui tape sur le clou, en fait, c'est vraiment, on va bâtir une maison à la force de le faire, là. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. L'association étudiante, c'est pas super fort pour nous autres, là, mais en tout cas, je pense que c'est d'aller directement auprès du directeur du programme et de lui en parler et de montrer nos faiblesses et nos difficultés dans le milieu du travail. C'est vraiment ça que je pense que c'est là qu'on peut interagir le plus. Là. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
Si ça peut être rassurant, ça fait 23 ans que je me présente à tous les congrès de l'AAQ et dès le premier congrès, il y a 23 ans, les mêmes questions étaient abordées puis ça n'a jamais évolué.
On va changer le monde, nous autres, on va changer le monde.
C'est sûr. Peut-être en attendant, la solution, c'est d'aller faire des cours comme auditeur, lire dans les domaines comme les ressources humaines, les RI, les ressources industrielles, peut-être en droit, là, des cours, parce que c'est ce qui manque, des cours en droit, des cours peut-être même un petit peu en communication, parce que les plans de communication, les avis de pertinence, tout ça, c'est des choses intéressantes, donc peut-être que c'est... Ça
va
être une alternative en attendant.
En attendant, il y a
des excellentes livres de psychologie. Oui, Dieu merci qu'il existe. Hein? C'est beaucoup très utile, ça.
Ah, peut-être pour répondre à cette question-là, parce qu'on est. Moi, je suis Alexis et on est en démarrage de révision de programme et on a plein d'idées. On a décidé d'aller vers une majeure déjà avant d'aller vers le bac. Et. Certains freins viennent de l'institution même. Et même si on veut aller chercher, disons, ce serait vraiment immensément intéressant, un cours en droit. En gestion de projet, tout ça, eh bien, les départements ont leur chasse gardée aussi. Là, donc, ça nous obligera à développer ces cours-là. Et là, c'est une question de sous.
C'est vrai, c'est donc, de trouver un prof de droit qui va vouloir axer plus sur les lois archivistiques, celles qui, comme la loi sur l'impôt, sur le revenu, le code civil, tout ça, vraiment...
Ça revient avec la problématique qu'un congrès avait déjà fait, en fait, du lobbying en archivistique. Ça part tout de là, là. C'est nous aussi, là. Il n'y en a pas nécessairement beaucoup de lobby, là, mais c'est à nous de le faire, ce lobby-là, puis de se lever, puis d'aller militer, là. T'sais. Peut-être pas avec des pancartes, là, mais c'est de pousser le bouchon, là, de cogner sur le clou.
Il faut que l'association le fasse. Et ce que j'entendais, moi aussi, à cette conférence-là, c'est qu'effectivement, le milieu le veut, mais... est-ce que le milieu et le milieu universitaire et le milieu des employeurs réussissent à se parler? C'est ça aussi qui n'est pas toujours évident.
Il faudrait relier, en fait, puis juste des stages, on parlait de ça, en fait. Créer des stages, juste les stages en certificat, là. de 17 jours. Là. Bravo. C'est pas assez long. Puis il faudrait peut-être mettre une personne qui sort avec une personne qui sort de l'université avec une personne qui sort de son travail, les jumeler, puis gars, suis-moi comme un petit chien, là, puis je vais te montrer c'est quoi le rouage à l'interne. On faisait ça au Moyen Âge, veux pas, là. Pourquoi pas revenir? Puis là, il y a plein de gens qui partent à la retraite. C'est le temps, là. Ben oui, le mentorat. Puis c'est ça, moi, j'ai vécu beaucoup au CRAO avec Bernard Savoie, Hélène Cadieux. Si je les avais pas eus, là, je serais pas rendue où je suis là. J'ai appris, mais c'était des mentors. C'est ça, tous les archivistes peuvent en être. C'est juste qu'il faut le faire.
Ben, en fait, pour poursuivre dans cette chaîne de pensée-là, hier, l'AAQ vous informe, malheureusement, l'AAQ vous informe, hier a été cédulé à une heure un peu ingrate, à 18h, alors tout le monde est en train de souper. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle ici, mais j'ai présenté une information aux gens qui étaient là, et je me permets de vous la répéter maintenant, que l'AAQ travaille en ce moment à développer un programme de mentorat pour ses membres. Parce qu'il existe de tels programmes, ben, ça peut se faire de façon informelle. Il n'y a rien qui dit que ça doit être encadré par quelque chose de déjà établi, tout le reste. Mais ces programmes de mentorat existent déjà à l'Association des archivistes canadiens, dans la Society of American Archivists, en Australie, en Suède, en Grande-Bretagne. Il y en a un peu partout. Et le Conseil international des archives, en 2009, a développé un guide pour l'implantation, l'élaboration d'un programme de mentorat dans des associations. Et en se basant sur ce document-là, le CA de l'AAQ est en train de travailler, développer les assises d'un tel programme qui, si tout va bien, pourrait probablement être lancé cette année. Là, il y a encore quelques ficelles à attacher, genre à savoir qui va gérer le programme au sein de l'AAQ. Mais mais ce serait un programme qui serait probablement lancé sous un format de projet pilote la première année. Donc, avec un nombre restreint de personnes qui participeraient au projet, donc ce ne serait pas des dizaines et des dizaines. Et si ça va bien, ça pourrait être institutionnalisé de façon plus permanente à l'AAQ, qui répondra entre autres justement à un de ces besoins-là au niveau de la transmission des connaissances. Il y a toutes sortes d'objectifs, un programme comme ça, c'est dynamiser l'association, favoriser l'implication dans la société. Au niveau du mentor, ça l'aide à se tenir à jour dans sa profession. Pour le jeune, ça lui ouvre plein de portes, réseautage, etc., connaissances. Alors, on espère que ça pourra fonctionner effectivement d'ici peu. Il nous reste un petit peu à travailler là-dessus, mais ça s'en vient. Oui. Et il y a monsieur en arrière après. Oui, allez-y.
Bon, j'ai eu comme une idée comme ça en vous écoutant et tout ça, puis je me disais, est-ce que nous, on est la légendaire? Est-ce que j'en veux? La légendaire, c'est une formation. Dans l'année qui s'en vient, on avait l'intention de donner une formation sur les chargés de projet. Peut-être un petit quelque chose, une journée là-dessus, puis peut-être on va savoir en même temps, vu qu'on a comme un bassin de représentatifs de gens, si ça avoir l'intérêt, si on avait différentes formations, des petits blocs un peu peut-être comme ça, sur peut-être leur, un petit peu de juridique, un petit peu communication, un petit peu de tout, pour savoir si c'est des choses qui peuvent intéresser.
Il y avait monsieur en arrière.
À ma connaissance, il existe déjà un baccalauréat en gestion de documents à l'Université de Moncton. Et c'est la première université francophone au Canada à le faire d'ailleurs. Et peut-être que l'association devrait consulter nos amis acadiens, nos brandus, voir comment ça se passe au programme et peut-être s'inspirer d'eux pour l'implanter ici.
C'est une très bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. S'inspirer.
Le prof de Yvon Lemay qui le tenait, puis il rendait le
ministre. Ben oui, il est là.
De toute façon, si je peux reprendre le crachoir, encore une fois, l'AQ vous informe hier et demain matin, si ça vous intéresse de vous lever tôt et de manger un petit muffin avec nous, il y a l'Assemblée générale annuelle de l'AQ de 8 à 9. Et lors de l'Assemblée, seront présentées, entre autres, les nouvelles orientations stratégiques de l'AQ, sur lesquelles le comité des affaires professionnelles que je dirige avec quelques collègues, dont Diane qui est ici, les orientations vont être présentées. Et entre autres, dans ces orientations, il y en aura une qui traitera de l'information numérique et des défis que ça pose, mais il y en a une, la première, si je me souviens bien, traite, ça reprend aussi les orientations qu'il y avait par les années, les plans quinquennaux précédents, c'était aussi de faire valoir le rôle de l'archiviste et ou gestionnaire de documents dans la société, auprès des décideurs et au sein de nos propres organismes. Il y a aussi la troisième orientation qui est de mettre en valeur l'expertise des membres de l'association. Et c'est un petit peu, comme je vous disais en préambule tantôt, c'est un petit peu aussi la raison aussi qui m'a poussé à mettre sur pied cette table ronde-là avec des gens qui travaillent dans des milieux différents en mettant de l'avant des expertises différentes qui se complètent. Donc, l'AQ, je pense aussi, va aller dans cette direction-là. Et des orientations comme la mise en valeur de l'expertise de nos membres, bien, ça pourra mener à des actions concrètes qui pourront justement de faire valoir, par exemple, Mme Boivin, qu'effectivement, il y a beaucoup de gens au Québec qui travaillent en gestion documentaire et peut-être qu'il y a des actions concrètes à amener pour nous faire reconnaître davantage au sein de toute cette mer de gens qui travaillent dans le domaine de l'information et qui ne sont pas nécessairement des archivistes, qui sont des gens des TI, qui sont des trucs genre de veille stratégique et autres. Alors, je pense qu'on s'en va dans ces directions-là aussi, qui va permettre de mieux mettre en valeur notre expertise. On a encore du temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Tiens donc, Diane.
Pour renflouer, c'est que on revient toujours à une question d'implication. Il est excessivement important que les gens s'impliquent. On a des demandes en tant que membres, mais il faut les faire valoir, ces demandes-là. Il faut les faire connaître. Puis l'Assemblée générale est un bon lieu. C'est très tôt le matin, mais mon Dieu, que ça vaut la peine d'aller se rendre visite.
Il faut oublier que le 9 juin, c'est la Journée nationale des archives. Donc, nous, à Québec, on fait un super partage, si tu veux l'échanger. Bon contact avec les journalistes, peut-être un petit article, dire c'est la journée sur les archives, les activités. Ça pourrait être intéressant aussi de faire plus de visibilité.
On a toujours besoin de plus de visibilité, ça c'est certain. Toutes les initiatives vont compter dans la balance. Je crois qu'il y avait une personne qui a levé sa main en arrière, ça pourra probablement être la dernière intervention de cette session.
Okay. J'imagine que tout le monde ici, moi je suis dans le domaine municipal depuis 25 ans, puis je trouve qu'il faudrait peut-être aller de l'avant là-dedans, puis développer plus, essayer de développer de plus en plus de collaboration avec les gens des services informatiques, surtout avec la gestion des familles de documents qui prend de plus en plus de place, puis on ne sait pas toujours qui doit faire quoi, puis qui devrait être responsable de quoi, puis de plus en plus, l'informatique commence à réaliser que. Justement, la gestion électronique des documents, c'est peut-être bien plus la gestion documentaire que c'est de la technologie. Donc, mais il y a quelque chose à développer de ce côté-là qui ne se fait pas encore, selon moi.
En fait, moi, je pense que, justement, je disais qu'on travaillait beaucoup en collaboration chez Molson Coors. Eux autres sont bien contents de s'occuper du contenant, puis nous autres, on est bien contents de s'occuper du contenu. Je pense que ça fait une très belle alliance. Puis, de cette façon-là, je pense que les choses fonctionnent bien quand chacun a son domaine d'expertise, parce qu'eux autres, ils ne comprennent pas là, au niveau du contenu, quand la conservation, tout ça, ils ne comprennent pas. Donc, ils sont très contents de donner ça dans notre cours. Nous autres, on était bien contents qu'ils s'occupent aussi de l'espace réseau, puis tout ça. Donc, je pense que ça peut être une très belle alliance tout à fait naturelle. Mais je pense qu'elle le devrait, par exemple. Il faudrait peut-être aller offrir nos services. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé offrir nos services au IT. Gars, on peut vous aider. On peut vous aider à désengorger les réseaux sans nécessairement rajouter de l'espace réseau. Pas en rajoutant des technologies, juste en organisant puis en contrôlant l'information.
Il y a des problèmes de langage aussi. On parle
de
l'IT. Je pense qu'il faut réapprendre à parler leur langage. Il faut qu'eux apprennent à parler notre langage. Chez nous, on a une personne du TI qui a bien voulu apprendre notre langage, on est en train d'apprendre le sien. Et puis, on a tous des points de convergence. Ça se fait, mais c'est une personne qui veut.
Oui, là, on vient de la planète, les gars.
C'est là
l'importance aussi, l'importance de la formation aussi en informatique. Moi, je suis pas une pro en informatique, mais je me débrouille quand même assez bien. Puis quand je parle à un informaticien, je comprends ce qu'il me dit, puis je peux le parler dans son langage. Donc, d'où la formation en informatique. C'est pas obligé d'être une formation très pointue, mais au moins de base pour parler la même chose. Après, eux autres, ils vont parler leur jargon, mais ça te regardera plus, tu sais.
Oui, non, mais je veux dire, quand on parle dans un dossier, beaucoup ne comprennent pas la structure. Ça regarde un petit billet.
Alors, je pense que ça a suscité beaucoup de réflexion et certainement que la conversation va pouvoir se poursuivre ce soir. Alors, si vous êtes des nôtres, juste une petite information, il y a des gens qui avaient posé la question. Donc, les autobus vont être disponibles à partir de 17h20 et le retour pourra débuter à 22h. Donc, pour les gens qui veulent revenir tôt, et il y aura aussi une vingtaine de minutes plus tard, aussi vers 10h20, d'autres autobus pour vous ramener ici ou au Zen Plaza. Là. Donc, ne vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous. Alors, je remercie nos conférencières et notre animateur. Alors, je pense que... qui a été fait par une artiste de la région. Merci.